Bienvenue sur FM+, dans notre magazine hebdomadaire au parcours. André Bourguet au micro, bonjour. La librairie Jean Calvin nous communique une évocation de la fondation John Bost, entreprise de santé certainement exemplaire, présentée par son directeur, le pasteur Christian Galtier. Et je laisse Franck Belloir, directeur de la librairie, le soin de vous présenter son invité. Bonne écoute.
Ce soir, nous accueillons donc le directeur de la Fondation Bost. Vous n'êtes pas sans savoir que la famille Bost est une des grandes familles du protestantisme français. Quelques-uns de ces noms sont très connus. Je pense notamment au fondateur, au père, Ami Bost, qui a été un des grands personnages du réveil en Suisse et en France. Et très rapidement émerge une autre figure, John Bost, qui, lui, va consacrer son travail, son œuvre, à l'accueil de tous ceux qui sont rejetés, hein, puisqu'il a eu cette formule célèbre dans le milieu, hein, « tous ceux qu'on rejettera, je les accueillerai au nom de mon Dieu ». Et sur ce principe-là, il va commencer très modestement à accueillir des rejetés, des débiles, comme on les appelle à l'époque, hein, et puis, petit à petit, et dans la solitude, hein, puisqu'il sera considérablement aidé par sa femme, Eugénie d'ailleurs, auquel vient d'être consacrée une édition d'une partie de son journal par Gabriel Cadierès, hein, eh bien, petit à petit, son œuvre va se développer. Alors je remercie M. Galtier d'avoir bien voulu nous rejoindre pour nous présenter l'œuvre de cette fondation, Servir les rejetés. Je vous laisse la parole pendant à peu près une cinquantaine de minutes, et puis après, on aura un échange.
Tout d'abord, merci de votre accueil, merci de votre invitation. C'est un honneur de venir à votre rencontre et donc d'essayer de manière certes un peu rapide de vous présenter cette vieille dame qu'est la fondation John Bost. Alors c'est une vieille dame parce qu'elle est née en 1848, 171 ans que cette œuvre a démarré. Et elle a démarré au cœur de la Dordogne. Alors la Dordogne, Le village où la fondation était implantée historiquement s'appelle La Force. Alors c'est le nom du village, ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup pensent être lié à la contention des gens malades, psychiques ou handicapés. C'est le nom du village, La Force. Et c'est à 90 km à l'est de Bordeaux. Cette vallée de la Dordogne, elle est protestante depuis la Réforme. Presque 5 siècles pour ce qui est de la naissance de la Réforme dans cette région-là. Et c'est parce que Jacques Nompart Caumont La Force, le duc de La Force, était le chef de guerre d'Henri IV. Voilà. Alors, on va laisser s'écouler les années, hein, parce que ça, on remonte assez loin. Peut-être juste une petite incise pour les jeunes générations. On a peine à penser que le protestantisme a été persécuté jusqu'à il y a encore 250 ans. Et que donc les œuvres, au sens, du service des tables, de l'action diaconale du protestantisme, eh ben, elles ne sont pas très anciennes par rapport à des œuvres du monde catholique qui, elles, ont plusieurs siècles d'ancienneté. Les œuvres protestantes, Elles sont nées dans la première moitié du XIXe siècle, après l'Empire, avec le Concordat, qui a rendu possible le fait que les protestants portent attention aux plus faibles d'entre eux, alors que pendant les périodes de persécution, malheureusement, la question, c'était pour tout le monde de survivre, caché ou persécuté, ou été à l'étranger. Et d'ailleurs, Ami Bost, dont vous parliez, le père de John, faisait partie, cette famille Bost, c'était une famille du Dauphiné qui avait dû, au cours des guerres de religion, s'exiler en Suisse. Et c'est comme ça qu'il a été un des acteurs du réveil en Suisse au début du XIXe siècle. Et après, quand les relations entre le protestantisme et l'État français se sont pacifiées, il a pu revenir avec ses enfants, et notamment les cinq pasteurs parmi ses enfants, en France. Voilà. John Bowen, alors, le protestantisme, il est toujours traversé par... par des tensions, des courants, des... Voilà. Et donc, ces gens de la force, ils étaient protestants depuis plus de 4 siècles, et ils n'étaient pas du tout d'accord avec le consistoire protestant, l'établissement public du culte protestant, dans le cadre concordataire, qui leur envoyait un pasteur libéral. Et ça, pour eux, ce n'était pas envisageable. Ils avaient envie que le pasteur dise des choses... qu'ils avaient déjà et toujours entendu, et pas que ce soit un pasteur qui, ne croit pas à la résurrection ou des choses de ce type. Et donc, ils ont refusé la nomination du pasteur proposé par l'Église nationale. Et ça a été énergique, hein, voire violent, puisque le pasteur en question n'a pu rentrer dans son temple que... accompagné par les gendarmes et le sous-préfet, tout le monde était dehors, l'empêchait de rentrer, et quand il a été dedans, il était tout seul avec les gendarmes. C'était un moment d'évangélisation, mais un peu particulier. Voilà. Et donc, ils ont décidé d'aller chercher quelqu'un, un pasteur, qui avait des idées plus proches de celles qu'ils souhaitaient voir se développer au sein de leur communauté. Et ils sont allés chercher donc un jeune pasteur qui n'avait pas, en réalité, qui n'avait pas fini ses études de théologie, qui était à la faculté de Montauban, John Bost, Jean-Antoine Bost, dit John Bost, qui poursuivait sa formation après avoir eu un parcours personnel un peu compliqué. Son père donc était évangéliste. Il avait plusieurs frères pasteurs. Et lui a hésité longuement entre un métier de concertiste international, c'était un grand pianiste, il a été élève de Liszt, il a joué avec Chopin, et le ministère pastoral. Et ayant rencontré un des pasteurs éminents de la mission intérieure luthérienne à Paris, il avait découvert la misère humaine, et il avait imaginé que s'il rejoignait le ministère, ça ne pouvait se faire qu'en portant attention aux plus fragiles et aux plus vulnérables. Et donc, il arrive à la force, mais dans un petit village, c'est compliqué d'avoir un pasteur nommé par l'Église officielle, des paroissiens, et puis quelqu'un qui arrive, cherché par deux ou trois personnes, qui lui disent « Maintenant, vous allez dresser une église ici, au cœur de ce village. » Et donc, il propose aux gens d'accueillir ce qu'on appelait, à ce moment-là, des jeunes filles en danger moral. Alors, les jeunes filles en danger moral, c'était, au XIXe siècle, des jeunes filles orphelines, et qui étaient placées dans des fermes et qui servaient à tout, y compris ce à quoi elles n'avaient pas envie. Et John Boss se dit, on ne peut pas laisser ça, on ne peut pas laisser ces jeunes filles, protestantes, hein, il faut leur apprendre un métier. Alors, pardon pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, avec des rôles sociaux qui étaient très repérés, il était à la fois quelqu'un qui avait l'idée d'émanciper ces jeunes filles, et en même temps, il leur faisait choisir entre cuisinière ou couturière. Mais c'était il y a 170 ans. Voilà. Donc, alors pour éviter que les frottements soient trop violents avec le protestantisme installé, il dit, les gens qui sont allés le chercher lui disent, bon, vous n'allez pas aller faire des visites parce que ça sera pris comme une provocation, donc vous prêcherez et vous vous débrouillerez pour, en prêchant de manière enthousiaste, attirer le plus grand nombre vers l'église que nous allons construire. Alors pour les pasteurs d'aujourd'hui, c'est assez édifiant parce qu'une prédication de John Bost, ça durait 7 quarts d'heure. Ça fait 2 heures moins le quart de prédication. Et la qualité de la prédication, on était dans une époque très romantique, se mesurait aux pleurs et à l'émotion des gens qui sortaient du temple. Voilà. Bon, John Bost, ne pouvant que prêcher, a consacré son temps à la création, à lancer cette œuvre. Donc, à l'époque, ça s'appelait les Asiles de la Force. Peut-être que certains dans vos familles avaient entendu parler des Asiles de la Force. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fondation de John Bost. John Bost, elle était portée par trois intuitions. La première, c'était « ce que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître ». Donc on est dans un accueil fondamentalement évangélique. « Ce que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître ». La deuxième intuition, c'était « dans un espace sans mur ni clôture ». Et ça reste une particularité pour ceux qui viennent sur le site de la Force, de se trouver au cœur de ce qui pourrait ressembler, pour les plus jeunes générations, au campus universitaire américain qu'on voit dans les séries télé. Vous voyez, des grands espaces, très ouverts. Le site lui-même fait 220 hectares. C'est vraiment un espace très grand sur lequel il y a des grosses maisons dans lesquelles sont soignées et accompagner les personnes qui ont besoin, du fait de leur maladie ou de leur handicap, d'être accueillies par la Fondation. Sa troisième intuition, c'était « nous mettrons des fleurs sur leur chemin ». L'idée que le beau pouvait aider des gens à aller mieux. Et John Bost a sans doute, aujourd'hui il y a des études autour de ça, inventé la musicothérapie avant l'heure. La musicothérapie, c'est utiliser la musique pour soigner les gens. Alors, je pourrais vous expliquer comment on... Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais comment on soigne les gens. Mais l'idée... John Bost, quand il était confronté à des personnes très sévèrement malades ou handicapées et qui ne savaient pas que faire, il leur jouait du piano et il constatait que ça les apaisait. Alors aujourd'hui, cette intuition-là, elle a été conceptualisée notamment par des médecins psychiatres qui disent que un environnement mal entretenu, un environnement très abîmé, c'est quelque chose qui crée du stress. Et le stress crée ou suscite des détériorations. Et on est dans une spirale infernale. Et donc, se retrouver dans une salle propre, une salle belle, c'est quelque chose qui contribue à notre bien-être. Être dans des locaux sales, mal entretenus, malheureusement, comme c'est souvent le cas, des gens vivent dans des situations de ce type, eh bien, ce sont des situations qui ne contribuent pas à l'épanouissement des personnes. Dans un espace sans mur ni clôture, c'est totalement révolutionnaire. Pour la bonne et simple raison qu'en 1838, 10 ans avant, il y a une loi en France qui décide de la création de ce qu'on a appelé les asiles psychiatriques départementaux. Et le modèle de cet asile, c'était un modèle carcéral. C'était une prison, ni plus ni moins, mais dans laquelle on ne mettait pas les gens pour les punir, on mettait les gens pour les soigner. Et en général, on rentrait et on sortait très rarement de ce type d'établissement, on y passait sa vie. Si on peut parler de vie. Voilà. Et John Bost, lui, 10 ans après, il décide de faire quelque chose de totalement opposé à l'esprit de la loi, puisqu'il dit « moi, je vais accueillir ces personnes dans des espaces sans mur ni clôture ». Et donc, aujourd'hui encore, ce sont des espaces entièrement ouverts. Sur le plateau, vous êtes venus, ce sont des grosses maisons sur des espaces totalement ouverts et totalement intriqués avec le village. C'est-à-dire que les gens qui vivent à la force viennent avec leurs enfants dans les installations sportives, dans les jeux que la Fondation met en place pour les résidents. Et l'idée, c'est de créer des rencontres, des moments où les gens se côtoient, apprennent à se connaître et à plus être inquiets devant une personne en situation de handicap. Donc, du vivant de John Bost, il a développé des asiles, 8 asiles de son vivant. Aujourd'hui, il y a la fondation, c'est 34 établissements et deux nouveaux sont en construction. Mais du vivant de John Bost, c'était 8 établissements. Et il accueillait, à la fin de sa vie, en 1881, il accueillait plus de 1000 enfants venant de toutes les paroisses protestantes de France. C'était des familles protestantes qui avaient un enfant handicapé. Alors, comme on le disait, hein, vous avez employé le mot débile. Débile, c'était un diagnostic médical. Et ça, pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui est à savoir. Les diagnostics médicaux en psychiatrie, au fil du temps, deviennent des insultes. Parce qu'on ne supporte pas les gens différents. Alors, idiot, c'était un diagnostic médical. Imbécile, c'était un gâteux. Pour les personnes âgées, c'est un diagnostic médical. C'était les gens qui gâtaient la sciure qui leur servait de couche. Vous savez, autrefois, dans les hospices, les gens avaient un lit en bois, c'était une caisse en bois, et on mettait de la sciure et on mettait un drap par-dessus. Et c'était ça leur matelas. Et quand ils se souillaient parce qu'ils étaient incontinents, ils gâtaient la sciure. Et donc le matin, avec une espèce de râteau mais sans dents, il y avait des gens qui enlevaient la sciure, et c'est comme ça qu'on parlait des gens gâteux. Alors aujourd'hui, c'est toujours vrai. Quand on dit des hommes politiques qui sont autistes, c'est pas vraiment un compliment qu'on leur adresse. Quand on dit à ses parents, alors je sais pas, vous êtes des gens bien élevés, mais peut-être qu'il y en a quand même à qui ça a échappé un jour, « Papa, arrête de psychoter. Hein ». La psychose, c'est une maladie psychique. Bon, on pourrait comme ça continuer. On a fait un jeu pour les jeunes à la Fondation avec ça, qui s'appelle Stop Insulte, sur le principe du doodle, où on a pris tous les diagnostics médicaux qui ont cours en psychiatrie pour aider les gens à réfléchir finalement sur... Quand on dit ça, ça veut dire qu'on prend la maladie de quelqu'un pour insulter quelqu'un d'autre, alors qu'on devrait, en tout cas... Nous qui partageons des convictions chrétiennes, être plutôt attentifs à celui qui est fragile et vulnérable ou malade, plutôt que d'utiliser ses difficultés pour insulter les autres. Donc la Fondation a accueilli comme ça pendant plus d'un siècle, après le lancement de cette œuvre par John Bost, 1000 enfants qui venaient des paroisses et des églises du protestantisme. C'est une institution du protestantisme. Il se trouve qu'il y a des pasteurs qui viennent de l'Église protestante unie, mais il y a des pasteurs qui viennent de l'Église libre, il y a des pasteurs qui viennent de l'ancienne Église réformée évangélique indépendante. Le protestantisme, dans son ensemble, se reconnaît dans ce travail auprès des plus faibles. Et il s'y est tellement reconnu que c'est lui qui l'a fait vivre, et c'est encore lui, pour une part, qui fait vivre cette œuvre. Ce protestantisme français, voire suisse, allemand aussi, qui fait vivre cette œuvre. À l'époque de John Bost, le Conseil des Anciens, quand une famille avait un enfant handicapé, le Conseil des Anciens se réunissait et disait « On va demander aux asiles d'accueillir le fils de la famille de l'Église. » Et l'Église va s'engager à payer tous les ans pour que cet enfant soit nourri, soit habillé et qu'il ait les soins dont il a besoin. Et c'est comme ça que dans bien des églises du protestantisme français, les gens connaissent les asiles qui sont depuis devenus la fondation de John Bost. Et les asiles n'ont accueilli des gens, exclusivement des enfants protestants, jusque dans les années 50-60. Vous voyez, c'est donc récent. Alors 1950-1960, plus d'un siècle après leur création. Et dans cette période-là, une question très fondamentale s'est posée pour le conseil d'administration de cette fondation, c'est de savoir si elle acceptait de participer à ce qu'on appelle le service public hospitalier, c'est-à-dire qu'elle soit une œuvre sanitaire et médico-sociale, un hôpital ou des établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Et le Conseil a décidé d'aller dans cette voie-là, à une seule condition, c'est qu'on ne l'empêche pas, et on n'empêche pas la Fondation, d'être un lieu de témoignage et un lieu de vie communautaire et spirituelle, parce que c'est ça le fondement de son action. Et ça, ça a été une vraie discussion, hein. Alors l'État français était moins laïque, ou laïcard, pardon de le dire de manière un peu grossière, mais moins laïcard qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais enfin, la question s'est posée. Le fait de vivre et de travailler avec les dons et les soutiens du protestantisme, ça donnait une liberté auquel est-ce qu'il fallait y renoncer pour participer et s'inscrire dans la politique générale en matière de handicap et de santé mentale. Ça a été une vraie discussion. Et la Fondation a dit « on continue, si on ne nous empêche pas de rester un lieu où la dimension du témoignage est quelque chose de fondamental ». Et c'est ce qui a été mis en œuvre, et je vais vous en parler à travers maintenant quelques images de ce qu'est la Fondation aujourd'hui.
Radio FM+, réseau associatif régional émettant sur Montpellier et Nîmes. Le pasteur Christian Galtier, directeur de la Fondation John Bost, vient d'évoquer les origines de cet énorme centre d'accueil. Il passe maintenant à la situation actuelle de l'entreprise de santé.
La Fondation, alors en quelques chiffres, aujourd'hui la Fondation accompagne près de 1750 personnes malades ou handicapées. Elle les accueille ou elle les accompagne suivant leurs difficultés, avec plus de 2000 professionnels qui assurent cet accompagnement. Alors une équipe médicale, des aides-soignants, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, ce qu'on appelait autrefois des aides médico-psychologiques, mais aussi des pasteurs et des bénévoles qui viennent accompagner ces personnes. Alors les personnes accompagnées, aujourd'hui, ce ne sont plus des petits-enfants comme ça se passait du vivant de John Bost. Au XIXe siècle, la naissance d'un enfant handicapé dans une famille s'était vécue comme une catastrophe absolue. La question que vous connaissez tous, hein, qui est posée à Jésus devant un enfant handicapé, qui a péché, est-ce ses parents ou ses grands-parents ? Elle est encore parfois sous-jacente à ce que vivent des familles qui ont un enfant handicapé parmi leurs enfants. voyez. Donc, aujourd'hui, la Fondation accueille que des adultes, parce que les enfants, on les soigne près de chez eux. Et bon, il y a toutes sortes de dispositifs avec la protection maternelle et infantile, avec ce qu'on appelle les centres médico-pédagogiques ou autres, médico-psychologiques, pardon. On soigne et on accompagne les enfants près de chez eux. Donc la Fondation, aujourd'hui, ce sont des adultes qu'elle accompagne et qu'elle accueille en Dordogne, mais aussi sur tout l'ouest de la France. L'établissement le plus au sud est à Anglette, entre Biarritz et Bayonne, vous voyez, sur la côte basque. Et puis après, on remonte jusqu'au Havre, Rouen et Le Havre. Et donc aujourd'hui, il y a 36 établissements de la Fondation sur un grand arc ouest de la France. La Fondation, elle accompagne des personnes qui ont eu des difficultés à différentes périodes de leur vie. Les formes de handicap les plus sévères sont des handicaps qui trouvent leur racine dans la période de prénatalité, au moment de la naissance ou dans les premières années de la naissance. Et ces situations ont en commun que le développement de l'enfant va se trouver mis à mal par la maladie, par ce qu'on appelle l'anoxie. À une époque, malheureusement, ça arrivait souvent au moment des accouchements. C'est-à-dire que l'enfant ne pouvait pas respirer suffisamment dans les premiers instants de sa vie. Et ça avait pour effet d'abîmer, de détruire une partie de ses cellules cérébrales. Donc la Fondation, elle accueille des gens qui sont maintenant adultes, mais qui ont eu des difficultés très tôt, qui les ont empêchés de se développer normalement. Alors le développement, c'est un processus qui est assez complexe. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un premier élément du développement qui consiste à découvrir sa propre existence, et notamment ce qui est moi, ce qui est l'autre. Et quand cette phase-là ne se vit pas de manière harmonieuse, la vie et le reste du développement risquent d'être très compliqués. Si je ne sais pas ce qui est moi et ce qui est l'autre, la vie devient très compliquée. L'émergence du langage est lié à cette conscience de ce qui est moi et ce qui est l'autre. Alors qu'au départ, le continuum entre la maman et le tout petit enfant fait que, effectivement, il y a une confusion entre lui et sa maman pour le tout petit enfant. Et puis, il va apprendre à se détacher. L'accès au langage, ben, ça veut dire qu'après, on peut lire et écrire, qu'après, on peut compter. On peut, voilà, toutes ces choses-là, si le développement est mis à mal, ça va être très compliqué, voire impossible pour la personne. Et du coup, sa vie comme autonome, sa vie comme acteur de sa vie devient très compliquée. Il a besoin d'être aidé pendant toute son enfance, adolescence et ensuite pendant la vie adulte. Ça, c'est un premier ensemble de personnes dont, heureusement, par la médicalisation de l'accouchement, par un certain nombre de choses, ces situations ont tendance à se réduire, et il y en a heureusement de moins en moins, même si on voit aujourd'hui des jeunes adultes handicapés, très sévèrement handicapés, polyhandicapés, du fait d'accidents de la circulation, et des tout petits enfants très handicapés. Quand on est parent, on n'y pense pas toujours. À la suite d'anoxie massive, parce que le petit enfant est tombé dans la piscine et qu'on s'en est aperçu qu'au bout de 3 ou 4 minutes, et parfois ça suffit après à ce que sa vie soit complètement bouleversée pour un événement d'inattention pendant quelques minutes. Donc dans ce type de situation, vous avez ce qu'on appelle les personnes polyhandicapées, les personnes dites autistes, où là aussi, les manifestations sont souvent précoces. Parfois, on les identifie que tardivement, mais elles sont souvent précoces. Des gens qui ont ce qu'on appelle maintenant les troubles envahissants du développement, ça veut dire que leur développement n'a pas pu se faire de manière harmonieuse. Et puis, vous avez des gens qui, alors, eux, ont une toute autre histoire, ce qu'on appelle les psychoses de l'âge adulte. Alors, les psychoses de l'âge adulte, la forme la plus connue dans les médias, c'est ce qu'on appelle les troubles schizophréniques. Ce sont des gens qui ont une vie sans difficulté apparente pendant l'enfance et l'adolescence. Et c'est au moment du passage entre l'adolescence et la vie adulte que leur vie, qui était parfois une vie brillante, se désorganise complètement. Et au point qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils savent faire. Alors ça, c'est une nuance importante par rapport à la question du handicap. Les premiers dont je vous ai parlé, qui ont eu des difficultés très tôt, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ne savent pas faire. Alors que les gens qui ont des troubles psychiques au moment de l'adolescence ou de l'entrée dans l'âge adulte, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils savent faire. Parce que leur esprit est complètement obstrué par des émotions ou des angoisses qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ces gens-là, dans la société moderne qui est très exigeante en termes de compétences, eh ben, ont de la peine à vivre de manière autonome, voire n'arrivent pas à vivre de manière autonome. Il y en a une partie d'entre eux, malheureusement, qui sont dans les gens qu'on appelle de manière très stigmatisante les sans domicile fixe. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques parmi ces gens-là. Et puis, il y en a beaucoup qu'on retrouve malheureusement aussi dans le monde carcéral, parce que dans les errances, ils ont fait quelques bêtises et ils se retrouvent en milieu carcéral. Le troisième public qu'accompagne la Fondation, ce sont des personnes qui ont un handicap soit très précoce, soit plus tardif, et qui sont devenues des personnes âgées ou vieillissantes. Et aujourd'hui, c'est un des grands défis de la société, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe, comment accompagner des personnes handicapées qui deviennent âgées, alors qu'autrefois, malheureusement, du fait de leurs difficultés, du fait du peu de soins qu'on leur apportait, leur espérance de vie était beaucoup plus courte que les gens apparemment en bonne santé. Et ça, à la Fondation John Bost, on a des personnes polyhandicapées qui ont 70 ans, alors qu'en majorité, elle décède à 40 ans. Mais si on s'occupe d'elle avec beaucoup d'attention, eh ben on arrive à ce que leur vie soit une vraie vie, et pas seulement une survie biologique, mais vraiment une vie avec des relations, avec des moments de joie, des moments de tristesse, mais une vraie vie. Voilà. Donc trois publics. Des gens qui ont eu un problème dans la toute petite enfance, des gens qui ont eu une difficulté très importante au moment du passage entre adolescence et adulte, et des personnes plus âgées. Voilà. Alors, j'ai pris quelques instants pour préciser, parce que on a souvent une représentation, très schématique de ce qu'est le handicap. À la Fondation, on reste fidèle à la devise ou à l'intention de John Bost, qui est d'accueillir ce que tous repoussent, ceux qui ne trouvent pas de place dans les institutions. Il y a quelques décennies, dans les années 50-60, dans les grands services de maternité parisiens de l'assistance publique, on disait il faut se rappeler que quand il n'y a plus de solution, il reste encore la force. Et ce « il reste encore la force », il est fondamentalement ancré dans des convictions chrétiennes partagées entre tous les acteurs. À la fois les familles qui font confiance à la Fondation. Aujourd'hui, on a fait récemment une enquête. 50% des gens qui demandent à ce qu'un de leurs proches soit accueilli à la Fondation John Bost le demandent parce que c'est un lieu où il y a une vraie vie communautaire et spirituelle. Et, curieusement ou pas, parmi les familles qui sont les plus insistantes, il y en a beaucoup qui sont catholiques et qui tiennent à ce que leur enfant, qui est souvent un adulte, hein, ça reste leur enfant, mais ce n'est pas un petit bébé, vive une vie communautaire et une vie spirituelle et sont très attachés à ça. Et puis il y a 50% qu'ils demandent qu'on accueille leurs proches pour des questions, on pourrait dire, de notoriété sur le plan médical et autres. Je vais maintenant aller plus sur le versant de cette dimension spirituelle de l'action de la Fondation. Je l'ai dit, elle est soutenue et portée. Alors, le quotidien est financé par l'assurance maladie et les conseils départementaux, comme tous les établissements. Alors, autrefois, il y avait une institution ici, il s'appelait Rochebel, ça existe toujours ? Voilà. Bon, ça c'est une institution, j'allais dire, qui avait été créée dans un contexte laïque, et elle était financée et par le conseil départemental pour ce qui est l'hébergement et par l'assurance maladie pour les soins. Ben, la fondation, elle est dans ce dispositif-là. Le budget actuel de la fondation, c'est 120 millions par an. Vous voyez, c'est des sommes qui sont assez conséquentes. Il y a une grosse partie qui est apportée donc par l'assurance maladie ou par les conseils départementaux. Mais il y en a une partie non négligeable, cette année c'était un peu plus de 20 millions, qui est apportée par des donateurs qui soutiennent ce projet parce que un jour quelqu'un de leur famille a été accueilli à la fondation, parce qu'ils pensent que c'est important que une église elle soit enseignante, proclamante, louante, priante, mais aussi soignante, aidante, la dimension diaconale de la vie de l'Église, qui l'attention aux plus fragiles, l'attention aux autres. Voilà. Et donc, des gens qui soutiennent l'action de la Fondation, il y en a 6 000 en France, qui, de manière régulière, soutiennent la Fondation. Il y a des gens qui la soutiennent comme à l'époque de John Bost. À l'époque de John Bost, c'était quasiment que des bénévoles qui faisaient vivre la fondation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas l'aide sociale départementale. Il accueillait ses enfants et lui et son épouse priaient pour que le Seigneur leur donne les moyens de faire vivre et de nourrir et d'habiller les enfants qui leur étaient confiés. Et c'était une telle préoccupation pour John Bost qu'il avait fait deux établissements, l'un qui s'appelle la retraite et l'autre qui s'appelle le repos, qui étaient là pour permettre aux gens qui venaient l'aider de finir leur vie dignement. Il n'y avait pas de système de retraite. À 60 ans, on ne disait pas « ça y est, je suis fatigué, je m'en vais ». Ben non, les gens ils continuaient à travailler tant qu'ils pouvaient. Et quand ils ne pouvaient plus, John Bost avait imaginé deux bâtiments à côté de ceux pour les personnes qu'il accueillait, des enfants. Il y avait deux bâtiments pour les personnes qu'il aidait. Alors, dans la représentation du 19e siècle, c'est un peu surprenant. Mais il y avait les aides, qui étaient des gens modestes. Et puis, il y avait les dames, avec trois accents circonflexes sur le A, qui étaient des institutrices ou des directrices. Le métier d'infirmière n'existait pas à l'époque. C'est quelque chose qui date du début du XXe siècle. Voilà. Donc, John Bost, il a vécu comme ça, porté par les églises. C'est la confiance dans ce ministère qui était vécu comme une vocation très forte qui lui a permis d'avancer. Alors, on a tenu un siècle, on a fêté le bicentenaire de sa naissance en 2017, il y a 2 ans. Et à cette occasion, on s'est dit qu'il faut quand même rendre à son épouse Eugénie ce qui lui revient. C'est-à-dire que Alors, pardon, ça va peut-être choquer la jeune génération, mais vous inquiétez pas, vous le découvrirez. Derrière les hommes extraordinaires, il y a toujours une femme géniale. Et donc, John Bost n'est pas passé à côté de ça. S'il a pu faire tout ce qu'il a fait, c'est parce que lui avait des convictions fortes, mais son épouse, Eugénie, avait un bon sens et une énergie incroyable. Pour la petite anecdote, mais ça dit beaucoup de choses sur le contexte dans lequel ces choses-là se sont vécues. Le monsieur qui est allé chercher John Bost à la faculté de Montauban, c'était un riche propriétaire terrien. Il était petit-fils d'un sénateur du Bergeracois, grande famille protestante. Les Ponteries de la Ménardie vivaient dans un château. Enfin bon, ils avaient une vie. Et il avait dit à John Bost, bon, au tout début, bon, vous ne pouvez pas faire de visite, vous prêcherez, ça sera formidable, les gens viendront vers notre église et quitteront l'église officielle. Mais, bon, à temps perdu, vous serez le répétiteur de mes enfants. Et il avait une fille et deux filles et un garçon. Et la jeune fille en question, ben, c'est celle qui est devenue sa femme. Mais il a fallu attendre 14 ans. Parce que le monsieur, quelquefois ça arrivait dans les familles pastorales, ça. Le monsieur, il était quand même un peu réticent à l'idée de confier sa fille à ce pasteur qui avait des idées géniales pour dépenser l'argent des autres. Et donc pendant 14 ans, il a dit non, non, non à sa fille. Il lui a fait présenter tous les fils de grandes familles de La Rochelle, de Bordeaux, du Béarn, les grands lieux du protestantisme d'autrefois. Et donc, eh ben, elle a toujours dit non. Elle a dit non, c'est avec John Bost que je veux me marier. Et le papa, il a capitulé sur ce qu'on appelait à l'époque son lit de mort, c'est-à-dire que c'est au moment où il a fermé définitivement les yeux qu'il a accepté. Vous voyez ? Et donc, deux siècles, enfin, 170 ans après, on a tenu à ce que le rôle déterminant de Eugénie Ponterie de la Ménardie, devenue Eugénie Bost, soit reconnu à travers un musée qui explique à la fois la différence, le handicap, la maladie psychique, mais aussi l'histoire extraordinaire de cette œuvre qu'est la fondation de John Bost. Sur la dimension spirituelle, la fondation, si vous voulez, elle part du principe qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, handicap ou maladie psychique sévère, et ils ont besoin de soins pour ça. Quand on est handicapé, c'est-à-dire limité dans son autonomie, on a besoin d'une réalité adaptée et d'être accompagné. Mais la vie, elle ne se joue pas que dans le champ de la santé et dans une forme de confort. La vie, elle a une autre dimension. C'est celle de ce qu'on appelle le sens de la vie. On connaît tous des gens qui ont un gros problème de santé. Quand on a un gros problème de santé, ça bouleverse toute la vie, pas que la vie biologique. C'est sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie relationnelle. Tout peut se retrouver mis à mal par un gros problème de santé. On imagine que les gens qui ont des très mauvaises conditions de vie, je parlais des sans domicile fixe tout à l'heure, si vous allez les voir en leur disant « Tiens, j'ai l'enregistrement du dernier disque là qui est sorti, je te le passe sur... » la personne, elle vous dit « Moi, je ne sais pas où je vais dormir ce soir, je ne sais pas quand est-ce que je mangerai la prochaine fois. Même un super concert, c'est pas mon problème. D'abord, l'essentiel, c'est de dormir et de manger. » Et on connaît tous des gens qui sont en bonne santé apparente, qui ont des bonnes conditions de vie, voire très au-dessus de la moyenne, et qui, malgré tout, ont une vie qui n'est pas une vie de joie, qui n'est pas une vie... Et quand on cherche un peu les symptômes de cette vie qui n'a pas de sens, c'est quoi ? C'est la jalousie, la culpabilité, l'orgueil, enfin bon, un certain nombre de choses dont nous parle la Bible de manière assez, assez claire. Et donc la Fondation dit, ben, vous avez des problèmes de santé, on va essayer de trouver les meilleurs médecins et soignants pour s'occuper de vos problèmes de santé. Vous avez des problèmes, des besoins d'adaptation ou d'aide du fait de votre handicap. On va essayer d'adapter le monde dans lequel vous vivez le mieux possible à vos capacités et pas seulement à vos difficultés. Mais on sait aussi que ce n'est pas parce qu'on est malade ou handicapé qu'on n'est pas préoccupé du sens de son existence. La manière dont je comprends mon existence en relation avec les autres, en relation avec Dieu, mais aussi en relation avec les autres. Et donc, on va vous accompagner sur ces trois dimensions de la vie. Et c'est ce qui est proposé à tous les résidents, qu'ils soient d'origine protestante ou pas, qu'ils se disent chrétiens ou pas, c'est proposé à tous. Et c'est proposé à travers plusieurs formes, à la fois des temps de partage biblique qui ont lieu toute la semaine, auxquels les résidents vont, auxquels des professionnels vont avec eux, et puis une vie communautaire lors du culte du dimanche, avec, on est sans doute un des rares lieux en France où les résidents disent « Je voudrais aller au culte tous les dimanches, mais je ne peux pas parce qu'il y a, je dois prendre mon tour un dimanche sur trois. » Ce n'est pas que la salle est trop petite, parce que ça, on l'aurait agrandi. C'est que il faut accompagner ces personnes avec des véhicules très particuliers. Et même en faisant un gros effort, on n'arrive pas à accompagner tous les dimanches tout le monde au culte. Mais c'est pour ces résidents, on s'aperçoit que ce sont des moments où ils se donnent à connaître aux autres autrement que ceux qui se donnent à connaître quand ils sont dans leur pavillon, dans le lieu où ils sont soignés et là où ils vivent. Voilà. Et les professionnels qui les accompagnent disent, c'est étonnant, dans certaines situations, on ne reconnaît pas la personne avec laquelle on est toute la journée dans un processus de vie et de soins, mais on s'aperçoit que quand on est au temps, alors on appelle ça de catéchèse, l'animation, le partage biblique, eh ben, il est différent que quand il est avec les autres au sein du pavillon, là où il vit et où on le soigne. Et tous les trimestres, on a ce qu'on appelle un grand culte festif, où alors là, ce sont les résidents avec les pasteurs de la Fondation qui préparent le culte. Et en général, les églises aux environs viennent voir ces moments qui sont des moments assez exceptionnels.
Vous êtes toujours sur FM+, radio associative émettant sur Montpellier et Nîmes. Christian Galtier prend encore quelques minutes pour peaufiner cette information sur la fondation John Bost qu'il dirige et pour conclure.
Ah bon, je vais... Vous m'avez dit 50 ? On n'est pas à 5 minutes près. Alors, il y a autre chose qui me semble devoir, enfin, qui vaut le coup d'être partagé. Alors, j'ai évoqué le fait de bénévoles. On accueille des jeunes volontaires qui viennent soit pour une période pendant l'année. Alors, c'est le service civique pour les plus jeunes, maintenant, qui ont cette possibilité. C'est le volontariat européen avec des gens qui viennent de tous les pays. Et on a un camp de volontaires l'été où des jeunes de pas dire du monde entier, mais presque, viennent pour passer un mois avec les résidents dans les pavillons en proposant des projets d'animation. Et ça, c'est quelque chose dont l'ambition est de changer le regard de la société et des personnes sur la maladie et le handicap. Vivre qu'on peut vivre une vraie relation avec des personnes, même si elles sont différentes, même si elles ont des difficultés qui sont parfois des vraies entraves. Hein. Il y a beaucoup de personnes qu'on appelle discommunicantes, c'est-à-dire qui ont des grosses difficultés de communication. Ben, la relation, elle est quand même sérieusement mise en difficulté, même si on arrive à vivre des moments très intenses et très, très joyeux. Mais quand les gens... J'allais dire, on voit en réalité, ce que la Bible nous dit, c'est que la vraie vie, elle est du côté de la relation, elle n'est pas dans la biologie, elle n'est pas dans le fait d'avoir des capacités physiques, des capacités de séduction, je ne sais quoi. La vie, elle est dans la capacité à être en relation avec les autres. Et quand la relation est mise à mal parce que les personnes ont de la peine à communiquer, c'est parfois compliqué, mais ça se vit plus dans les sens. Et la catéchèse de la Fondation donne une large place aux autres manières de communiquer que par la seule la parole. Alors, en protestantisme, quand même, on ne lâche pas sur la parole. Même si les gens ne parlent pas, il y a toujours une parole pour dire quel est le sens de ce qui se vit. Sinon, on pourrait tomber dans une espèce de magie du geste. Enfin, on sait que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de tension avec notamment le catholicisme. Le geste qui serait salvateur, alors que ce dont nous sommes convaincus, c'est que c'est la parole qui donne le sens du geste, qui, elle, peut être un appel ou une bénédiction. Le dernier élément, et après je m'arrête, c'est que il y a une évolution en Europe dans laquelle la France est un peu en retard. C'est ce qu'on appelle l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Dans les pays nordiques, souvent de culture protestante, les personnes en situation de handicap ont une place, comme tout le monde, dans la société. En France, un choix a été fait, après on peut l'interroger sur sa pertinence, ça a été de faire des établissements spécialisés et des établissements spécialisés dans lesquels les gens vivaient de manière permanente, avec une forme de retrait par rapport à la vie sociale. Et aujourd'hui, les pays les plus en avance sur ces questions-là sont dans ce qu'on appelle cette dimension de l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir aller partout et doivent pouvoir avoir une vie comme toutes les autres. Et je suis pour ma part convaincu que les églises ont un rôle à jouer dans cette dimension de l'inclusion sociale. Il y a des mouvements récents qui appellent au renversement de toutes les institutions. Les institutions, en tout cas la représentation protestante des institutions, c'est que ce sont des béquilles pour les gens fragiles. Et quand on est chrétien, on sait qu'on est tous fragiles, qu'on a tous une part de vulnérabilité, une part de fragilité, qu'on est sauvé mais qu'on reste pécheur, on a une part de nos vies qu'on donne facilement à connaître aux autres parce qu'elle est un peu glorieuse, et puis il y a une part d'ombre qu'on garde entre soi et le Seigneur. Ben, cette vulnérabilité, cette fragilité fait qu'effectivement, on a besoin de lieux, d'institutions qui accompagnent les plus fragiles, mais qui rendent possible aussi des rencontres entre des gens qui, a priori, n'auraient pas de raison de se rencontrer. Et les églises peuvent être ces lieux où les gens en situation de handicap peuvent apporter quelque chose de leur fragilité, alors qu'on est plus dans une société de performance, de « vous le valez bien », comme dit Madame L'Oréal, enfin, vous savez, tout ce qu'on exhale chez chacun de grandeur, de performance, eh ben, les gens vulnérables, je veux dire que le Christ a été crucifié, éjecté de la société parce que ce qu'il apportait, ce n'était pas ce que les hommes attendaient, mais clairement, il n'est pas dans la société de performance. Il est dans la société de l'attention aux plus fragiles. Et aujourd'hui, je pense qu'on le sortirait aussi. Peut-être pas sur une croix, mais en tout cas, on lui dirait qu'il n'est pas à sa place ou il n'est pas le représentant, le modèle de la société qu'on nous propose et dans laquelle on est, il faut être lucide, hein, toujours victime et complice. Beaucoup de gens se voient seulement victimes et disent « c'est les autres qui sont les complices », alors qu'en réalité, on est victime et complice de tous ces processus. Notre vocation de chrétien aussi, c'est de dire que la vulnérabilité, c'est la trace de notre humanité. Si Dieu nous avait voulu brillants et parfaits, il aurait su nous faire brillants et parfaits. On voit que les personnes âgées, elles deviennent apaisées et on prend plaisir à les rencontrer quand elles arrivent à tenir ensemble toutes ces facettes de leur vie. Les facettes brillantes qu'elles ont toujours donné à connaître et puis les facettes plus sombres. Je termine vraiment. Je pense que les églises ont vraiment quelque chose à proposer pour que les personnes en situation de handicap dans notre société ne deviennent pas « on vous a fait une place, maintenant ce n'est pas notre problème ». Vous pouvez vivre comme tout le monde, hein, c'est les enjeux de la question de l'accessibilité. Hein, vous savez, c'est tous ces débats autour de « il faut que toutes les salles puissent être accessibles ». Il faut que les personnes en situation de handicap puissent avoir une vie comme tout le monde. Mais est-ce que cette vie comme tout le monde, c'est une vie de solitude et d'isolement, ou est-ce que c'est une vie de rencontre et une vie de partage ? Ben, moi, je suis persuadé, à travers ce qu'on peut vivre à la Fondation, que ça peut être une vie de rencontre et de partage, sous le regard du Seigneur, pour ceux qui le souhaitent, et que les églises ont quelque chose à proposer demain, parce que sinon, les personnes en situation de handicap, on aura fait tout ce qu'on aura pu en termes matériels pour rendre leur vie possible, mais personne ne se préoccupera qu'elles sont toutes seules dans leur appartement, personne ne se préoccupera de savoir si elles peuvent rencontrer des gens, parce que ça... Ben, on part du principe, quand on est en bonne santé, que c'est naturel. Comme communauté, pensez à faire une place aux personnes en situation de handicap. Vous découvrirez, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des personnes en situation de handicap, de vraies personnes, avec peut-être un visage qui est plus proche de celui du Christ souffrant que du Christ glorieux, mais c'est quand même le Christ. Merci de votre attention.
FM Plus, antenne de Montpellier, le pasteur Christian Galtier vient de nous présenter la Fondation John Bost, dont il est le directeur, une très vieille dame née au 19e siècle, d'une passion hors norme pour les rejetés, notamment les malades mentaux et handicapés. La vieille dame est encore jeune, avons-nous pu comprendre, novatrice en matière de santé et particulièrement sensible à la dimension spirituelle de l'accompagnement et des soins, dans un élan communautaire. Au revoir et à bientôt sur FM+, dans un prochain parcours.